Terre, le 18-20.
C'est une thématique, certains diront un serpent de mer, une thématique sur laquelle les déclarations de bonnes intentions pullulent à gauche comme à droite. Réformer les institutions, améliorer la démocratie. Comment construire cette nouvelle république dans laquelle la prise de décision serait plus rapide, plus efficace, plus en phase avec les attentes des citoyens. Des citoyens qui, eux, seraient davantage impliqués, consultés. Un authentique renouvellement démocratique et non plus cette éternelle auto-reproduction des élites, une démocratie où la transparence de la vie publique serait la règle, où justice sociale et état de droit ne s'opposeraient pas forcément aux réalités économiques. Alors à 5 mois de la présidentielle, peut-on y croire? Comment agir concrètement? Eh bien on y réfléchit, on en débat ensemble ce soir au téléphone sonne. Vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter hashtag Telson.
Michaël Thébault. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, c'est Nicolas des Deux-Sèvres qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Nicolas, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Bonsoir. Alors, voilà.
Allez-y Nicolas.
On veut avoir des personnes politiques plus connectées avec les préoccupations des gens, hein, pour vraiment refaire le lien entre démocratie et les gens. On veut aussi éviter des mesures électoralistes. Donc est-ce que la solution, ce serait d'avoir un personnel politique issu de la société civile et avec un mandat unique?
Eh bien, écoutez, excellente question Nicolas, merci. Et pour vous répondre, deux invités, la philosophe Cynthia Fleury, professeure de philosophie politique à l'American University de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que dans le cadre du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est en ce moment à Paris, ce qui nous a donné envie hein, de ce thème pour le téléphone sonne, bien, vous participez demain à la nuit de la démocratie. Et bonsoir Thierry Mandon.
Bonsoir.
Secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, auteur, entre autres, avec votre collègue Mathias Feckel, d'un rapport rendu récemment au chef de l'État, rapport qui proposait rien de moins qu'un Big Bang institutionnel. On va évidemment y revenir. Qui veut répondre à Nicolas? Thierry Mandon. C'est Cynthia Fleury qui vous fait signe.
Bon, la question qui est posée, c'est de savoir s'il a une plus grande diversité des représentants, des profils, des formations, des professions, et une plus grande concentration de ces représentants élus sur leur mandat, entre guillemets, unique, renforcerait la démocratie. À l'évidence, la diversification des élites, qu'il s'agisse d'ailleurs des élites politiques ou des élites administratives, est une nécessité absolue. Dont il faut mesurer ce qu'elle peut apporter, en l'occurrence des expériences diverses dans la fabrique d'une décision publique, que le cumul des mandats, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, puisque désormais un parlementaire ne pourra être que parlementaire à partir de la prochaine législative. Au niveau local, il y a encore peut-être des progrès à faire. Et donc c'est un embryon de réponse, mais la crise démocratique et, moi je crois, la revitalisation de la décision publique par un sursaut démocratique va bien au-delà que simplement la diversification des élites. Donc oui, c'est une pierre, c'est une des briques de cette architecture qu'il faut rebâtir, mais qui va bien au-delà de la question de la diversité des élites.
Cynthia Fleury, Nicolas a insisté assez précisément sur le fait d'avoir une carrière politique courte. Du coup, on pense davantage aux citoyens qu'à sa carrière. C'est ce qu'il disait quand même.
Alors, je crois qu'il y a effectivement la question qui est derrière, c'est la question de la professionnalisation aussi de la vie politique. Parce que c'est pas simplement une carrière courte. Dans le sens où, sans doute, qu'il faut repenser le fait que, éventuellement, les citoyens peuvent avoir à un moment donné, dans leur vie, une mission politique et donc venir faire un mandat unique. Là, c'est effectivement, si vous basez la vie, les carrières sur un mandat unique, c'est absolument impossible. Donc, moi, je trouve que c'est pas une idée inintéressante, mais là, pour le coup, faudrait totalement revisiter notre manière...
Et la politique plus comme mission que comme métier.
Exactement. Plus comme mission, comme moment, comme séquence, que plutôt rente et souci, bien évidemment, parce qu'il y a une donnée, si vous voulez, il faut sortir de cette idée d'une corruption ou de que sais-je, mais il se passe un conflit de loyauté très simple. Quand vous êtes dans la professionnalisation de la vie politique, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a de l'électoralisme, et donc le court-termisme de l'électoralisme néolibéralisme vient à un moment donné télescoper la vérité du long terme, qui lui n'est pas évaluable de la même façon. Et donc, quand vous travaillez sur le long terme, généralement, vous êtes sanctionné sur le court terme électoral. Et donc, à un moment donné, les élus, ils sont pris dans un étau et ils sont dans ce conflit de loyauté. Donc, c'est vrai que de libérer éventuellement la parole et l'acte politique par un mandat unique, ça peut être un point intéressant.
Thierry Mondon, l'homme politique que vous êtes, ce conflit de loyauté, comme dit Cynthia Fleury.
Oui, il existe. Alors, il faut bien d'abord entendre, préciser ce qu'on entend par mandat unique. Je ne sais pas s'il veut dire un seul mandat, député par exemple,
ou
si il veut dire dans le temps la non-réélection possible.
J'ai cru comprendre.
Un seul.
Oui, mais un seul, ça veut dire quoi? Mais je voudrais développer juste ce point, il est très important, parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, sur la présidence de la République, des personnes qui proposent qu'on revienne éventuellement au septennat, mais qu'il n'y ait plus de réélection du président. Et ils pensent que les comportements des présidents seraient beaucoup plus détachés, et donc, d'une certaine manière, plus vertueux. Moi, je suis totalement contre, pour le coup, cette vision. Je pense même, avec une modeste expérience d'élu, que c'est la réélection qui fait l'homme politique. Je suis contre pourquoi ? Parce que si on dit à quelqu'un, vous ne serez pas réélu, vous ne pouvez pas candidater à nouveau, et comme ça, vos décisions seront bonnes, ça veut dire finalement qu'on pense que les citoyens et la démocratie est coupable de pression sur l'élu auquel cet élu va répondre. C'est finalement le mandat unique dans le temps. C'est la crainte du peuple. C'est l'idée que c'est parce qu'il y a un peuple qui fait des pressions que celui qui est soumis à réélection prend les décisions parfois mal à propos qu'il prend. Et donc, si vraiment on veut rebâtir l'architecture démocratique, il faut la bâtir sur la confiance. Les élus sont pas forcément des gens qui répondent à des pressions et il faut que le socle de confiance dans la démocratie soit vraiment...
Alors justement, assez... vous allez voir que le terme de confiance va revenir très fréquemment dans ce téléphone sonne. Simplement regarder les mails et les coups de fil de nos auditeurs, ça revient en permanence. On repart au standard. François nous appelle du Cantal. Bonsoir, soyez le bienvenu François.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, merci pour vos excellentes émissions France Inter. C'est un sujet majeur que vous traitez pour l'avenir, pour regagner la confiance, justement, des Français, vous, monsieur le ministre, etc., pour la simplification que vous ne faites pas. Nos politiques vont-ils enfin arrêter leurs multiples cumuls et pas simplement les postes ou les privilèges? Il y a quand même des enseignants qui sont présidents de conseils départementaux, en même temps président de Comcom, mais il n'y a pas que ce cumul de postes. Il y a le cumul des retraites, certes, il y a des plafonds, il y a le cumul des privilèges financiers. Alors, qui va régler ce problème, puisque ce sont les auteurs de ce cumul qui font les lois?
Bien, merci pour cette question, François, assez accusatrice. Cynthia Fleury?
C'est une vraie question et la confiance, elle s'est brisée aussi sur la division de destin, entre guillemets, entre des élus qui sont, en tout cas, à tort ou à raison, mais ressentis comme hyper protégés et qui votent des lois qui déprotègent les citoyens. Je donne juste un exemple parce que sur celui des retraites, il est absolument terrible.
Écrasant.
Il est écrasant, c'est-à-dire que en cinq ans de mandat de député, vous avez la retraite de 40 ans pour un travailleur lambda.
Oui, c'est ça, 40 annuités, oui.
40 annuités. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ça, ce n'est plus audible, et encore heureux.
Pas tolérable, surtout.
Et surtout, ça empêche la réforme. C'est-à-dire que c'est pas simplement symbolique, c'est pas simplement un mauvais moment à passer, c'est que ça empêche qu'un pays se mette en ordre de marche pour précisément faire certains types de sacrifices, certains types de rationalisation, parce que, de fait, ces élus, ceux qui représentent le peuple, sont hors de cet effort de réforme.
Qu'en dit le secrétaire d'État Thierry Mondon ?
Je dis que d'abord, il faut faire attention à l'essentialisation des catégories les politiques. Il y a des politiques de toute nature. Il y a des gens qui cumulent pas. Il y a des gens qui sont convaincus des politiques qu'il ne faut pas cumuler. Il y a des politiques qui cumulent. Enfin bon. Donc faisons attention à ne pas constituer en caste absolument fermée sur elle-même un monde qui est beaucoup plus divers que ce qu'on pense. Sur le fond, regardons les faits. Cette assemblée, la celle qui va terminer son mandat dans quelques mois, a voté le non-cumul des mandats pour elle-même. Elle l'a voté pour elle-même sans aucun un acte de coercition, d'obligation. Il n'y a pas eu de 49-3, il n'y a pas eu de procédure particulière. Les parlementaires, députés puis sénateurs, ont décidé qu'il n'y aurait plus de cumul de mandat. Quand on était député ou sénateur, on était député ou sénateur.
Donc vous êtes en train de dire que ça avance, ça change.
C'est donc bien possible de changer. C'est embryonnaire. Le changement est sur beaucoup de plans, mais il ne faut pas désespérer d'idées qui cheminent et qui visent à rebâtir une démocratie avec des principes de fonctionnement assez nouveaux.
Avant de repartir au standard, je vous livre ce courriel de Mathieu. Je pense que changer le mode de scrutin serait une bonne chose pour notre démocratie. Et Mathieu nous donne plusieurs exemples. Plus de démocratie participative, dit-il, tirage au sort de personnes dans les réunions. Et moi, j'ajouterais personnellement à ce que nous dit Mathieu, la promesse de François Hollande d'une petite dose proportionnelle, comme on dit. Cynthia Fleury.
Oui, bah c'est vraiment le sujet qui revient sans cesse et c'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là. Sans doute faut-il combiner. Moi, je ne suis pas du tout pour des solutions exclusives où tout d'un coup on retourne au tirage au sort alors que le suffrage universel tel que nous l'avons conçu, c'est aussi une conquête et donc il est tout à fait important de lui laisser toute sa place, mais des combinaisons plus de proportionnelles qui permettraient aussi d'avoir parfois mais pas une proportionnelle intégrale parce qu'on voit aussi le désastre que ça peut être. Donc c'est la juste combinaison, elle est à penser. Et surtout, en plus, si demain on veut faire aussi plus de diversité dans l'enceinte parlementaire, et quand je dis diversité, c'est âge intergénérationnel, les compétences, le monde civil. Tout à l'heure, on l'entendait dans la première question. Il faut absolument créer un continuum beaucoup plus fort entre les citoyens et l'acte de gouverner. C'est-à-dire qu'il faut, nous n'avons pas d'accès, si vous voulez, égalitaire à l'éligibilité. Demain, un citoyen lambda veut devenir député, c'est un parcours quasiment impossible et improbable. Et ça, c'est pas possible.
D'où la nécessité, Thierry Mandon, comme le dit Cynthia Fleury, de combiner différents modes.
Oui, mais surtout différentes conceptions de la démocratie. Là, on parle beaucoup de démocratie des représentants du peuple. Bon, et il y a donc un certain nombre de progrès à faire, on les a vus, non-cumul, diversité des modes de scrutin. Bon. Mais il y a aussi d'autres formes de démocratie, la démocratie directe qui, à mon sens, est atrophiée dans notre pays, enfin qui est sous-utilisée, et peut-être même maintenant que le numérique se développe, des formes intermédiaires de démocratie, un troisième étage à la fabrique démocratique, du renouveau démocratique, qui serait une sorte de démocratie continue, qui ferait que des procédures nouvelles permettraient à des citoyens non élus, par ailleurs non représentants, d'intervenir dans des processus de fabrique de décisions.
Ce qui est déjà en cours, on le voit de plus en plus.
Je vous dis ça parce que croire que c'est simplement en ayant des élus plus divers, élus différemment, qui ne cumulent pas et qui dans le temps ont des limitations, ça ne sauvera pas la démocratie. La crise de la démocratie, elle est beaucoup plus complexe, elle doit être... Et notamment, la façon dans une société qui s'horizontalise de faire participer en continu des citoyens à des décisions publiques, cet aspect-là est très important.
Alors la parole au citoyen auditeur de France Inter, Patrick nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir à Monsieur Thébault, Madame Fleury, Monsieur Mandon. Bonsoir aux auditeurs. Donc voilà, je voudrais vous répondre tout de suite, Monsieur Thébault. Moi, j'y crois à la possibilité de faire évoluer notre démocratie en France. C'était une introduction que vous faisiez. J'y crois de deux manières. J'y crois d'abord, contrairement à ce que vous disent vos invités, moi, je pense qu'il faudrait une proportionnelle quasiment intégrale, ou en tout cas une très forte proportion de proportionnelle au niveau de l'Assemblée nationale pour que au moins les citoyens soient vraiment représentés. Et il me semble que si on veut faire avancer des projets, si on veut faire voter des lois dans notre pays, eh bien même s'il y a une proportionnelle, il suffit que les différentes représentations au niveau de l'Assemblée s'entendent sur des thématiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche. Moi je pense que tout ça, c'est on n'a simplement pas l'habitude. Je pense que nos élus d'aujourd'hui, ils sont tellement, ce sont toujours les mêmes, ils n'ont pas confiance vraiment aux citoyens. Donc voilà, c'était ma première proposition, c'était de mettre une très forte dose de proportionnelle et puis surtout jouer aussi avec le référendum dont on nous parle souvent. On nous dit que le référendum, c'est l'alpha et l'oméga, mais je pense qu'on ne l'utilise pas assez et on devrait justement associer les citoyens. Un peu comme on l'a fait pour le référendum constitutionnel en 2005 sur le traité de l'Union européenne, où moi j'y ai participé, je me rappelle, un an avant même qu'ait lieu le vote, il y a eu des débats sur Internet, enfin bref, il y a eu une vraie vie démocratique et c'était pas, comment dire, moi j'ai trouvé ça éblouissant, je veux dire même enrichissant et c'est ça qui manque aujourd'hui. Je pense que nos élus aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours les mêmes, ont peur de ce que pourrait penser le citoyen. Donc déjà débloquons ce qu'on dit un petit peu d'autres auditeurs, mais... absence de renouvellement de mandat pour certains élus, et puis ouverture un petit peu plus à la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.
Un message très clair, merci à vous Patrick. Avant de vous répondre, je donne la parole à Fabien qui nous appelle du Gers. Bonsoir Fabien, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Finalement, je vais reprendre un petit peu ce que vient de dire le précédent auditeur et ce que disaient aussi vos invités, notamment Madame Fleury, juste avant. Voilà, moi, ce que j'ai imaginé, ce que j'aimerais faire, c'est que nous y arrivions, ce serait de faire une assemblée nationale composée à moitié de citoyens tirés au sort, quitte à ce qu'il y ait une légère majorité pour ces citoyens tirés au sort. Ça nous responsabiliserait davantage et il y aurait, enfin, réintroduirait un vrai principe de démocratie dans notre système politique. Mmh. Et garder, évidemment, nos députés, des hommes politiques de l'autre côté qui soient là pour... la politique, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, compliqué. Je pense pas que le premier citoyen venu serait capable de saisir tous les enjeux et même de prendre les bonnes décisions seulement de lui-même. Mais je pense que ça enrichirait énormément de choses, les débats. Ça remettrait la politique au cœur de ce que c'est qu'être citoyen. C'est comme ça que j'imagine la chose. Et juste une petite dernière remarque. Savoir déjà, premièrement, si ce serait possible de faire ça, et notamment si ce serait auprès de Monsieur Mandon, comment on pourrait y arriver. Et le vote blanc également, parce que plus personnellement, en tant que citoyen, avec tout ce qui va arriver, l'élection présidentielle, moi je suis en rejet, j'ai un rejet total actuellement de ce que est devenu notre politique et des hommes politiques en général. J'aimerais voter blanc, mais j'aimerais que ce vote blanc signifie quelque chose et puisse vraiment amener à ce que les choses changent. C'est-à-dire que si demain, au deuxième tour, au second tour de la présidentielle, au malheur, parce que c'est mon opinion à moi, nous aurions Monsieur Fillon face à Madame Le Pen, je souhaiterais voter blanc et que si le vote blanc remporte le second tour de la présidentielle, que enfin on puisse faire bouger les choses et que notre...
Message entendu, Fabien, c'est riche, c'est complexe. On va d'abord revenir sur ce que disait Patrick. Proportionnel intégral, disait-il, et le référendum, Cynthia Fleury.
Mais justement, pour répondre au premier auditeur,
Patrick, ouais.
Je voulais parler de la question de l'absentéisme, c'est-à-dire proportionnel intégral, très très bien, mais de toute façon, ça n'en revoit pas. Vous avez aussi ce problème de comment on comptabilise le vote blanc, puisqu'aujourd'hui, quantité de personnes considèrent que le vote blanc est un acte. C'est pas un non-acte, c'est quelque chose qui vient dire là le choix que vous me proposez est inepte et je veux que ce soit entendu et je ne veux pas simplement choisir là ce type de candidat, je veux repenser tout le cadre de discussion et donc aller en amont de ça. Donc ça c'est un point tout à fait important. Moi je défends pas une proportionnelle encore une fois intégrale, je préfère des combinaisons un peu différentes. Ensuite sur les questions de référendum, oui. C'est intéressant, avec ceci près que l'instrumentation du référendum n'est jamais simple. Il y a un côté plébiscite ou au contraire contre, etc. Mais on voit très bien l'exercice suisse de votation qui marche très bien.
Ça fonctionne,
et
oui.
Ça va dans cette idée de ce que Thierry Mandon a dit tout à l'heure sur une démocratie plus continue, plus ordinaire, qui associe le geste citoyen de façon plus responsable,
etc. Avec cette dimension de proximité.
Avec cette dimension de proximité, de simplicité aussi, de dire mais oui, c'est une fabrique et nous devons fabriquer. Nous sommes profondément fébriles sur l'innovation, l'expérimentation, l'invention, alors que nous ne pouvons pas fonctionner avec des outils du 18e siècle qui sont certes merveilleux pour certains, mais obsolètes dans un monde comme celui de la mondialisation. Dernier point, ils ne veulent pas simplement, si vous voulez, participer par un vote, c'est-à-dire par la sanction ou par le plébiscite, mais je pense qu'il y a ce côté de droit d'initiative, c'est-à-dire d'aller plus directement dans la fabrique, dans la constituante, et aujourd'hui on a un outil qui s'appelle la démocratie numérique et qui permet effectivement, et peut-être demain avec une 6e République, d'impliquer les citoyens dans un travail et pas simplement dans une sanction, dans un contrôle, mais au contraire de venir véritablement porter leurs compétences.
Justement, c'est aussi ce que nous disait Fabien Thierry Mandon avec cette idée de tirage au sort de la moitié des députés à l'Assemblée.
D'abord, ces expériences existent dans certains pays. Le tirage au sort se développe en Belgique, enfin dans plusieurs pays, avec des limites. C'est par définition, le tirage au sort, c'est pas représentatif en soi, et donc vous n'avez pas une ressemblance, à la société. Donc, mais à mon sens, à terme, assez vite, la question du rôle d'une deuxième chambre dans le processus législatif, vous avez l'Assemblée nationale d'un côté, vous avez le Sénat de l'autre, se posera. Il faudra revoir la façon dont la deuxième chambre est constituée aujourd'hui.
C'est-à-dire, pour être très clair et très concret.
Oh ben il y a énormément aujourd'hui de projets de réforme du Sénat, pour dire de façon très courte.
Voilà.
Et
qu'on mais intègre... si on est encore plus concret, qu'est-ce qu'on fait du Sénat?
J'y arrive, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs options possibles, il y a les corps intermédiaires, les associations, donc des choses qui représentent beaucoup plus la société. Et si on rentre dans cette logique-là, on peut même imaginer, en tout cas y réfléchir, qu'il y a un peu de tirage au sort. C'est tout à fait...
C'est concevable
en 2017. C'est absolument concevable, et c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Sur le vote blanc, moi je suis totalement pour la reconnaissance du vote blanc et nul. J'ai été maire pendant un certain nombre d'années et j'ai abandonné mon mandat pour cause de pour m'appliquer la règle du non-cumul. J'ai lu les soirs des dépouillements électoraux les bulletins blancs et les bulletins nuls. Je peux vous assurer que c'est absolument extraordinaire car les gens non seulement se déplacent pour faire un choix, et le blanc c'est un choix, et le nul c'est un choix, mais même parfois écrire les bulletins nuls.
Beaucoup, moi j'ai fait ça aussi.
Alors il y a le meilleur et parfois le pire. Voilà, mais c'est quand même très intéressant, donc ces votes-là devraient être reconnus dans une nouvelle architecture démocratique.
Mais comment avoir une authentique reconnaissance du vote blanc, Cynthia Fleury?
Ah, on peut aller jusqu'au bout d'une annulation ou d'une... Voilà, parce qu'effectivement, le reconnaître, c'est pas simplement...
Parce que si on va
simplement...
jusqu'au bout, c'est ça.
Ah bah c'est ça. Si c'est juste pour le comptabiliser et n'en faire rien...
Ça n'a aucun intérêt.
Bah, on va pas dire que ça n'a aucun intérêt. Sans doute qu'on passera par cette étape. Mais non, l'enjeu, c'est de dire, écoutez, on ne peut pas, à un moment donné, dans une démocratie représentative, fonctionner avec le fait que les leaders que nous choisissons, en fait, ne représentent rien.
Ce qui veut dire, imaginons, voilà, on a deux candidats, aucun ne l'emporte au second tour de la présidentielle, le vrai vainqueur, c'est le vote blanc, on annule le second tour, on en fait un troisième?
C'est pas impossible. En tout cas, il faudrait penser, effectivement, tenter ce pari-là et prendre ce risque-là. Mais vous savez, la démocratie, au sens de constituante, au sens de... C'est quelque chose que nous fabriquons. Donc c'est pas quelque chose qu'on nous impose et qu'on trouve chaque jour dysfonctionnant. À un moment donné, on pose les choses et oui, on se donne un petit peu plus de temps. Je vous jure que la démocratie française ne s'écoulerait pas parce que, tiens, allez, il y a un mois de plus, l'élection est reportée, ou un autre mois avec le fait qu'il faut aller chercher d'autres candidats. Au contraire, il y aurait un renouveau et une sensation de participer et une confiance.
Ce que demande une majorité de gens. On repart au standard. Jean-Paul nous appelle d'Achères. Bonsoir Jean-Paul, soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous. Est-ce que la rémunération des élus ne les déconnecte pas de la réalité, sachant que la rémunération est loin du salaire moyen en France?
Ah bah écoutez, question concise, claire. Monsieur le secrétaire d'État, Thierry Mandon, le salaire des élus, déconnecté, pas déconnecté?
Je crois que c'est beaucoup plus profond. Si déconnexion il y a parfois, c'est pas seulement question de rémunération, c'est d'abord question de composition. Du corps des élus, donc de la non-diversité dont on a parlé, c'est du mode de travail, c'est de l'hyper-complexité de la prise de décision politique qui fait que tout le monde vit entre soi, donc c'est ces raisons-là. Mais ce qui me frappe dans toutes ces questions, c'est qu'elles relèvent toutes d'une amélioration de changement de règles de la démocratie représentative. C'est l'idée finalement que ça marcherait mieux si les élus dont on se dote travaillaient, étaient différents. À mon sens, et c'est toutes les questions de vos auditeurs, c'est insuffisant comme réponse. Le vrai sujet démocratique, c'est de changer la façon dont les représentants prennent des décisions en donnant beaucoup plus de place à l'intervention directe des citoyens, avec des procédures qui existent, on pourrait vous donner de nombreux exemples, à ce stade c'est pas très intéressant, mais des consultations obligatoires, avant des projets de loi, de l'écriture des projets de loi, des participations possibles des citoyens, ça s'est testé sur quelques projets de loi de manière embryonnaire, c'est très prometteur, de ceux qui ont des savoirs, comme on dit, d'usage, c'est-à-dire qui ont des connaissances, qui ont envie de participer.
Oui, ça, bref, c'était compliqué il y a 20 ans, ça l'est plus maintenant avec Internet,
voilà,
notamment.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut sortir de ce couple infernal qui fait qu'on conçoit la démocratie comme une délégation de pouvoir donnée à des gens, et finalement, une posture confortable pour un certain nombre de citoyens qui, ah bah je suis content, très bien, je suis pas content, c'est vraiment pas bien les élus. Il y a aussi de la responsabilité dans la démocratie. C'est l'affaire de tous, de ceux qu'on mandate pour nous représenter, mais de nous aussi comme citoyens qui devons participer, prendre des responsabilités dans un processus de décision collective.
Alors, énormément de questions, toujours sur cette idée de revenus, de déconnexion. Arnaud nous appelle de la Nièvre. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir. Donc moi, je me permets de vous appeler déjà, merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Je suis effectivement conseiller municipal dans un petit village, et je vais revenir effectivement aussi sur le principe des revenus, parce que en tant que conseiller municipal, j'œuvre pour le bien commun de mon village, j'ai été élu pour ça, je perçois 0 centime, 0 euro, et pourtant je m'investis. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie avec nos grands électeurs, nos grands dirigeants politiques qui ne correspondent pas à un revenu moyen de notre société. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut accorder une confiance et les suivre là-dessus, quoi.
Arnaud, j'imagine que vous avez une profession au-delà de cette mission de conseiller municipal.
Tout à fait. Bah oui, il faut bien vivre quand même quelque part. Donc j'entends qu'il faille un revenu minimum, mais peut-être pas un revenu...
Quand vous dites que vous investissez énormément dans votre petit village, ça veut dire quoi concrètement? C'est combien d'heures par jour, par semaine?
C'est au minimum 1h30 par jour.
Une journée et demie par semaine.
Oui, alors ça représente peut-être pas grand-chose, mais faut bien que je gagne ma vie aussi à côté.
Merci Arnaud. Cynthia Fleury, comment vous recevez ce témoignage, Arnaud? C'est important ça aussi.
Mais d'abord, ça montre la diversité des élus. Ça rappelle quand même cette chose qu'on oublie un peu parfois.
Ce que disait Thierry Mondeau aussi. Ouais.
Voilà, tout à fait. Et qu'il y a quantité d'élus qui sont dans des situations beaucoup plus proches de la vérité des concitoyens. Et c'est vrai qu'il y a un différentiel, surtout, je dirais, avec effectivement les grands dirigeants, et pas simplement sur le moment du mandat, mais éventuellement sur des droits acquis pour plus tard, sur la retraite, etc., qui de fait crée ce sentiment d'une protection d'un côté et d'une non protection de l'autre. Donc oui, mais je voulais revenir sur le fait que je partage tout à fait l'avis. Oui, il faut améliorer, et Dieu sait si on peut le faire, la représentativité de la représentation. Donc ça, de fait, on l'a dit, il y a un boulevard pour améliorer cette représentation qu'on ne fait pas, et il faut le faire. Mais il y a à instituer une démocratie participative, délibérative, citoyenne. Sauf que, à partir du moment où on dit ça, il se pose quand même la question de la formation des citoyens. Sur quel temps? Parce que sinon, ce sont les plus nantis des citoyens qui pourront faire ce travail-là, ou les retraités. Hein, bon, donc à un moment donné, si on veut véritablement, là aussi, que la représentation de la participation soit un tout petit peu digne de ce nom, il faut réfléchir à comment on accompagne ce que j'appelle la citoyenneté capacitaire.
C'est ce que disait l'un de nos premiers auditeurs, ça s'apprend aussi.
C'est la question du revenu universel qui quand même va se poser pour plein de raisons. C'est la question éventuellement de la création de temps citoyen dans les entreprises, dans les administrations, dans les organisations, que sais-je, c'est-à-dire en gros, à un moment donné, les superstructures qui nous aident à libérer du temps pour faire cet exercice de liberté des modernes qui aujourd'hui est en train de se repenser.
Thierry Mondeau, on pourrait comme ça libérer du temps pour impliquer davantage les citoyens dans la vie publique, politique?
Déjà commençons, notamment pour les entreprises, qu'elles reconnaissent, voire bonifient, le parcours de ceux et de celles de leurs salariés qui consacrent une partie de leur temps à l'engagement civique. Il y a peu d'entreprises qui le font. Je cite une entreprise, en l'occurrence Michelin, qui a décidé de faire ça systématiquement, et ça me semble vraiment de très bonne politique, parce que les questions, tout ça c'est un cercle vicieux, les questions des rémunérations...
Les entreprises qui le font, c'est rarissime.
C'est rarissime, c'est rarissime, mais c'est même pire que ça. C'est parfois même pénalisé. Un engagement dans la vie civique, qu'elle soit politique ou d'ailleurs associative, qui vous prend du temps...
Donc ça peut être très mal vu, effectivement.
Mais alors que c'est une ressource, y compris pour l'entreprise. C'est parce que ainsi, quelqu'un qui est impliqué dans l'écosystème autour de l'entreprise, dans la vie, acquiert des savoirs, des connaissances dont il fera bénéficier indirectement par son activité professionnelle d'entreprise. Donc c'est vraiment un calcul pas seulement nécessaire civiquement pour les entreprises d'aider ceux qui s'engagent, mais c'est même économiquement, je suis persuadé qu'il y aurait des retours. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les parois étanches entre le monde politique, surtout à haut niveau, et l'entreprise, sauf Piston, malheureusement, ça existe. C'est-à-dire des gens qui se recasent facilement dans telle ou telle grande
entreprise. Bon, on le voit assez souvent en ce moment.
Mais sinon, je veux quand même simplement vous dire que, vous savez, quand vous êtes un homme politique, que vous décidez de plus faire de politique et que vous voulez aller travailler, c'est pas facile du tout. Vous avez les mêmes problèmes, et tant mieux, que les Français, voire plus.
J'en doute un peu, excusez-moi, mais j'en doute un peu.
Écoutez-moi, je peux vous donner la liste longue d'un certain nombre de personnes, pas forcément parlementaires, de politiques qui ont des grandes difficultés de reconversion. Si en plus, ils ont des options très tranchées, ils ont encore de plus grandes difficultés. Donc, il y a un vrai sujet de bonification des parcours de l'engagement public, en général, pas seulement politique.
Bernard nous appelle de Rouen. Bonsoir Bernard, soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous. Oui, je voudrais évoquer l'expérience qui existe, par exemple en Allemagne, où les associations, dans certains domaines, je pense à l'environnement, sont consultées. C'est une obligation pour les collectivités territoriales de consulter des associations de citoyens qui sont très impliquées, et la population se sent donc plus concernée par les problèmes et les décisions qui sont prises ensuite par les politiques.
Donc appliquer la même chose en France, c'est ce que vous dites Bernard. Ça marche de l'autre côté du Rhin, pourquoi pas chez nous?
Bien entendu, merci.
Merci à vous Cynthia Fleury.
On a des quand même quantité d'obligations aujourd'hui, à la fois d'enquête publique, de consultation, toute la commission du débat public qui, généralement sur des grands projets, a l'obligation de venir à la fois informer, consulter. Alors le problème c'est jusqu'où cette participation participe de la décision. C'est ça le problème.
N'est que consultatif.
C'est-à-dire, on a ce problème de que consultatif, et on ne va pas au niveau de la concertation, c'est-à-dire on fabrique la décision, et généralement la décision en dernière instance revient pas aux citoyens.
Il est où le blocage, Thierry Mandon?
C'est ce qu'il vient de dire par Cynthia, est extrêmement juste. On consulte, mais la décision est déjà prise. Le dossier est déjà ficelé. Et donc, finalement, demande un avis. Et
même parfois. Pour créer l'acceptabilité.
Donc, ça, on habille.
Et je pense qu'il y a une réforme très facile à mettre en œuvre qui se fait dans un certain nombre de pays européens. J'étais allé à l'étranger pour l'étudier. C'est, avant toute grande décision, il devrait y avoir des débats d'orientation préalables à la décision. Je prends l'exemple tout bête. Vous voulez voter une loi sur le travail. Avant de dire voilà ma loi, vous allez à l'Assemblée nationale. Vous dites 3 mois avant le vote de la loi, voilà mes intentions, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire. Vous faites un débat dans la commission parlementaire, mais vous ouvrez aussi ce débat à la participation publique avant que de rédiger 3 mois plus tard, de manière définitive, le projet de loi.
Ça existe on se dit, mais voilà, c'est très simple. De fait, ça existe dans bon nombre de conseils municipaux. Alors pourquoi ça marche pas à l'étage supérieur?
Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça n'est
pas voulu.
On
n'essaie même pas.
Ça n'est pas désiré.
Alors il est où le blocage? Je repose la question.
Puis il y a une raison, j'allais dire anthropologique, c'est un gros mot, mais enfin, on est en plein débat présidentiel aujourd'hui. Les présidents, les futurs candidats à la présidentielle se font élire sur quoi? Sur l'idée qu'il faut leur donner les clés du pays et qu'ils vont régler les problèmes. Il n'y en a pour l'instant pas un qui sérieusement dit aux Français, si vous me donnez la possibilité d'être président de la République, je vais vraiment travailler à rebâtir une vraie architecture démocratique du pays. C'est-à-dire que ce débat-là manque au débat politique. La crise de la démocratie, les réponses nouvelles qu'il faut y apporter, pas seulement, encore une fois, en démocratie représentative, les outils nouveaux dont il faut se doter, dont certains pays européens se sont dotés, ça manque au pays, et pour des raisons, encore une fois, culturelles, qui tiennent, je crois, à ce rôle prédominant d'une certaine conception.
Mais après, téléphone sonne, ça va changer, on va le voir,
il y a une contradiction, c'est vrai, parce que c'est porté par un Montebourg, c'est porté par un Mélenchon qui en appelle à la 6e République, etc. Mais en même temps, étrangement, ils veulent combiner une vieille idée de l'homme providentiel qu'ils incarneraient, bien
J'aimerais
sûr.
Qu'on reparte une dernière fois au standard. Gabriel nous appelle de Lorraine, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question et merci pour vos émissions, comme d'autres éditeurs l'ont précisé. Ma question est très rapide, il est de bon ton actuellement de fustiger la responsabilité des hommes politiques et de les rendre responsables de un petit peu tous les maux actuels, quelquefois à juste titre, mais j'aimerais poser la question ce soir de la responsabilité des citoyens, sans aucune enfin agressivité. Je me pose souvent la question de l'attitude des électeurs qui se comportent plus comme des consommateurs d'un spectacle médiatique plutôt que comme des électeurs ou des citoyens éclairés qui font un choix en fonction de programmes. Et je fais juste un dernier petit point. Je me souviens d'une élection présidentielle où un reportage avait été fait sur les raisons qui avaient conduit les électeurs à voter. Et sur un panel d'électeurs qui avaient été justement questionnés, très peu avouaient avoir suivi, basé leur choix sur le programme électoral qui devrait être l'élément de base pour effectuer un choix. Donc voilà, je souhaitais poser cette question ce soir.
Mais elle est formidable cette dernière question. Merci beaucoup Gabriel. La responsabilité des citoyens cette fois. On change de côté Thierry Mondeau.
On a évoqué ce point tout à l'heure. La première chose, c'est que les citoyens ne doivent pas considérer qu'il y a une classe politique, les politiques, tout ça c'est la même chose, qu'ils sont tous pareils, accessoirement tous pourris, qui travaillent pour eux. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils doivent regarder les choses avec plus de précision. Et la deuxième des réponses qu'on peut faire à cette remarque très juste, c'est encore une fois qu'il n'y aura pas de sursaut démocratique si les citoyens ne trouvent pas les moyens de s'investir plus directement dans des processus de décision qui leur feront plus de place qu'aujourd'hui. Cet engagement citoyen, il est indispensable. Je crois d'ailleurs qu'il y a un appétit pour ça aujourd'hui.
Ah mais c'est sûr, il n'y a qu'à regarder le nombre d'auditeurs qui ont appelé, il y a un appétit réel.
Reste aux procédures de fabrique des décisions publiques d'être modifiées pour donner de l'espace et du pouvoir véritable au savoir des citoyens dans les fabriques des décisions.
Tout cela est absolument passionnant et réjouissant. Merci beaucoup Thierry Mondon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup également à Cynthia Fleury, philosophe, professeur de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Dans moins de 2 minutes, un nouveau journal sur France Inter.